91, mais on va prier d'abord et après ça je vous lis le psaume 91. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment. Encore une occasion que tu nous donnes d'approfondir ta parole, d'approfondir notre connaissance de ta parole et d'être abreuvé et nourri par celle-ci. Nous te demandons d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos pensées aux mystères cachés dans la parole, que tu puisses t'en servir pour façonner, pour modeler notre existence, afin que quoi que nous fassions, nous disions, quoi que l'on soit, nous puissions, Seigneur, te glorifier avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Ce matin, veuille bénir ma sœur, veuille bénir mon frère, et permets-nous, Seigneur, non seulement d'entendre, mais d'accueillir et de favoriser, Seigneur, la croissance de ta parole en nous. Alors, en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans le psaume 91. Le verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le rassasirai, je le glorifierai. Je répète, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Excusez-moi pour le petit lapsus, j'ai sauté une ligne. Et je relis pour vous donc le verset 8 qui sert de base pour notre réflexion d'aujourd'hui. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce matin encore une fois. La thématique de toute cette semaine, la thématique de comment affronter la peur, comment affronter la terreur qui vient parfois frapper ou sonner à notre porte. Et le terme important qu'on a vu tout au long de cette semaine, le terme « yare », craindre, et dans ce cas-ci ne pas craindre, qu'on voyait depuis le verset 5. Aujourd'hui, on nous dit encore une fois « ne crains pas, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant ». Je fais exprès de rementionner toujours cette phrase « ne crains pas » pour nous ramener, pour que ça devienne pratiquement un mécanisme tout naturel, un mécanisme qui se met en action au moindre instant où la peur et la terreur pourraient venir à notre rencontre. Donc « ne crains pas », ça veut dire « ne pas magnifier ». La terreur, ne pas magnifier la source de terreur, ne pas magnifier ou ne pas mettre une loupe, une emphase particulière dans ce qui pourrait être une menace, sachant que peu importe cette menace, elle est quand même inférieure à la protection que Dieu veut nous accorder. Ne pas avoir peur, ne pas être terrifié, ne pas être sous la pression, ou ne pas crouler sous la pression. Pourquoi? Parce que même si l'attaque est forte, notre Dieu est encore plus fort. et enfin ne pas rester ébahi, pantois, déstabilisé par la menace, sachant que notre pire ennemi est la pire des menaces qui pourraient poindre à l'horizon contre nous, de toute manière, est déjà vaincu par notre Seigneur. Alors là, il dit, ne crains pas, de tes yeux simplement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas. Yeux, œil, le terme en hébreu, le terme ayin, ayin, A-Y-I-N, je répète, A-Y-I-N, qui parle effectivement des yeux, donc l'organe qui nous permet de voir, les outils qui nous permettent de voir, mais il nous parle aussi de source et de fontaine. On va revenir là-dessus dans quelques instants. De tes yeux, simplement, tu regarderas, regarder, le verbe regarder, le terme en hébreu, nabat, N-A-B-A-T. Je répète, nabat, N-A-B-A-T. Pour ceux qui se joignent à nous pour une des premières fois, on tient vraiment à retourner dans le texte hébreu et à épeler les termes tout simplement parce que plusieurs de nos frères et nos sœurs qui nous écoutent le matin prennent aussi des notes pour les réviser un peu plus tard. Donc on épelle pour qu'ils sachent comment faire la chose. Donc regardez Nabat, N-A-B-A-T, qui nous parle de mirer, qui nous parle de scruter, de regarder avec attention. Et une autre image, de regarder vers le bas. Donc d'être positionné un peu plus haut que le sujet de notre attention et de le regarder de haut, le regarder en le regardant vers le bas. Et là aussi, ça va être intéressant dans l'interprétation. Donc les yeux, une source et une fontaine. Il y a certains philosophes et certains auteurs qui ont dit que les yeux étaient la porte d'entrée vers l'âme. Je ne sais pas si c'est une vérité, si c'est réellement cela, mais assurément nos yeux abreuvent nos pensées, nos yeux abreuvent notre intérieur. Très souvent, lorsque nous voyons quelque chose, cette chose va susciter chez nous des réactions positives ou négatives. Et lorsque le serviteur d'Élisée regardait la situation devant lui, il voyait effectivement l'armée syrienne, l'armée ennemie qui s'approchait, qui campait près de la maison de son maître Élisée, et la vue de ses ennemis venait à le terroriser. Mais lorsque Élisée va prier en sa faveur en demandant que ses yeux s'ouvrent, le Seigneur va permettre à ce serviteur d'avoir les yeux qui puissent admirer et regarder maintenant qu'au lieu d'avoir strictement comme présent devant la maison simplement l'armée ennemie, mais de voir que cette armée était entourée et que cette maison était entourée de l'armée céleste. Et à la vue de cette armée céleste, le cœur de ce serviteur va s'emballer et va aller en paix et va devenir heureux, tout simplement parce qu'il se rend compte que l'armée du Tout-Puissant campe auprès de ses serviteurs. Donc, de nos yeux, on va nourrir nos sentiments, on va nourrir notre âme et notre esprit. Et voilà pourquoi il est si important de garder nos yeux sur Dieu. Je n'ai eu cesse de le répéter depuis un certain temps et je l'ai assez régulièrement fait cette semaine. Il y a des gens qui mettent actuellement l'emphase beaucoup sur le diable et sur ce qu'il fait et sur le travail qu'il accomplit en prétextant que si on ne connaît pas notre ennemi, on ne saura pas le combattre. Mais la plupart du temps, et comme on va le voir ici, ce n'est pas à nous de le combattre, mais c'est Dieu qui le combat tout seul. Et très régulièrement, le Seigneur nous demande simplement de regarder ce qui va se passer. Et l'important pour toi et pour moi, si on avait un seul endroit à regarder, mets-le dans la balance. Si tu n'avais qu'un endroit à regarder, Dieu ou l'ennemi, qui te sera plus profitable? Quel regard, quelle vue, quel horizon est plus glorieux à regarder et plus profitable pour ton âme? L'ennemi dont tu sais que malgré toute la puissance, il est déjà vaincu, il a déjà été condamné pour l'éternité et il va finir effectivement pour le restant de l'éternité dans la condamnation et dans la géhenne et dans l'enfer, ou regarder Dieu à l'œuvre dans sa délivrance, dans sa provision, dans sa protection, dans sa gloire et dans sa domination face à toute principauté, tout royaume et toute domination. Alors, qui est plus important à regarder? Si tu n'avais qu'un endroit à regarder, je pense effectivement que de regarder Dieu est le meilleur endroit. Et quand tu dis, mais puisqu'on est des hommes et on ne peut pas faire grand-chose en même temps, ou plusieurs choses en même temps, mon regard placé sur Dieu est non seulement suffisant, non seulement approprié, mais assurément, mon regard devrait être constamment, toujours sur Christ. Alors voilà pourquoi je le répète et je le répète, ramener notre pensée sur le fait que Dieu est supérieur à toute affliction et à tout combat et à tout ennemi, que notre Dieu est plus fort que tout ennemi, que toute armée, que toute arme forgée contre nous, et que notre Dieu a déjà vaincu toute adversité et tout ennemi qui pourrait se pointer devant nous. Donc, pour rassasier mon âme, pour fortifier mon âme, je tourne les regards vers le Seigneur. Donc, je tourne le regard vers Dieu. Cette phrase-là est intéressante parce qu'elle ne dit pas « va au combat », elle ne dit pas « sors ton épée et puis utilise-la ». Elle ne dit pas « assure-toi de t'armer jusqu'aux dents pour pouvoir résister au diable et pour pouvoir le combattre ». La chose qu'il nous dit dans ce moment, c'est « de tes yeux, regarde ». Et ce n'est pas nécessairement aussi simple qu'on pourrait le croire. Dans notre nature humaine, on est des gens actifs. On a appris par l'éducation qui nous a été donnée, par les mœurs, les habitudes qui ont été transmises année ou siècle après siècle et génération après génération, on nous apprend à nous débrouiller par nous-mêmes. Mais lorsque je viens à Christ, je dois apprendre à dépendre de lui. Donc, être là dans l'exercice où je ne fais que regarder, ça peut être particulièrement difficile. Ici, David va dire, on me demande à moi de ne rien faire sinon que de regarder. Alors assurément, comme on vient de le dire, regardons au bon endroit, regardons vers Christ, regardons ce que Christ va faire, regardons ce que Christ est en train de faire, regardons ce que le Seigneur a comme plan et comme désir, gardons nos regards dans la parole de Dieu, gardons nos regards vers le Seigneur. Mais de tes yeux seulement tu regarderas, ça veut aussi dire que moi qui suis peut-être hyperactif, moi qui suis peut-être proactif, moi qui suis peut-être le défenseur de la veuve, de l'orphelin et de celui qui est dans le trouble, pour une fois, Dieu me dit, ben, lâche prise. Ça veut dire que je ne veux pas que tu assures ta propre protection. Parce que aussi fort sois-tu, aussi puissant sois-tu, aussi doué sois-tu au maniement de l'épée, assurément, la protection que tu pourrais t'assurer à toi-même est plus faible que celle que Dieu peut t'assurer. Alors, dans cette exhortation à regarder seulement, c'est aussi une exhortation à lâcher prise, à dire, Seigneur, je comprends que tu veux assurer ma protection, je comprends que tu vas assurer ma protection, et je n'ai pas à gesticuler à droite et à gauche et à me débattre comme quelqu'un qu'on s'apprête à égorger. Je te lui fais simplement confiance. Donc, un lâcher-prise. Et ce n'est pas un lâcher-prise passif. C'est un lâcher-prise qui est tout à fait actif, qui est tout à fait délibéré, qui est tout à fait réfléchi. Les gens, lorsque on parle de nous comme quoi nous sommes dépendants de Christ et nous enseignons la dépendance à Christ, les gens regardent souvent le chrétien comme étant quelqu'un de passif. Ce n'est pas quelqu'un de passif qui décide que ma protection, je ne vais pas l'assurer par moi-même, mais je vais la confier à Dieu. C'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui a été entériné, et c'est quelque chose qui va contre nature, humainement parlant. Donc lorsque moi, je mets ma confiance en Dieu, c'est quelque chose de très actif, c'est quelque chose de très proactif, c'est quelque chose de très délibéré, de très réfléchi et de très intentionnel. Je sais que ce sont des mots redondants, c'est des synonymes, mais je fais exprès pour que la pensée puisse pleinement rentrer dans votre esprit. Non seulement, par moment, Dieu nous demande de ne rien faire du tout, mais il nous demande, par le cas, par la même occasion, de lâcher prise et de ne pas assurer notre propre défense. Mais si je regarde, si je lâche prise, tout cela ne peut être fait que parce que j'ai eu la foi. Si j'ai le moindre doute, de toute façon tout à fait innée, mon autoprotection va revenir de l'avant. Si j'ai une foi qui est défaillante, il est tout à fait logique comme comportement que je puisse réassurer ou assurer de nouveau tout ce qui a trait à ma sécurité personnelle, tout ce qui a trait à ma protection personnelle. Donc, quelqu'un qui est capable de dire, je vais simplement regarder. Quelqu'un qui est capable de dire, Seigneur, je lâche prise, je te laisse faire ce que tu veux faire et comme tu veux le faire. Ben, cette personne-là est effectivement en train de manifester une foi en santé, une foi fortifiée, et une foi comme Dieu veut qu'on l'ait, cette foi qui nous amène à dépendre de Dieu, non pas piteusement parce que la chose m'a été enfoncée dans le fond de la gorge de force, non, c'est une foi que je manifeste parce que j'ai décidé que je faisais confiance à Dieu. Je sais, je reviens souvent sur mes propres expériences. Un jour, je vous expliquerai ou je vous rappellerai à quelle occasion ce psaume 91, la dernière fois, je l'ai enseigné. Mais ce psaume-là me revient beaucoup en pensée concernant ma propre expérience. Lorsque je dis à Dieu le matin suivant le diagnostic d'un cancer de phase 4, je dis à Dieu, tout est correct. Je te fais confiance, tu peux me garder ou m'amener à la maison. La seule chose que je te demande, c'est de prendre soin de la famille et de prendre soin de l'Église. Ben, ce faisant, je mets ma confiance, je mets ma foi en Dieu, peu importe ce qui arrive. Et face à cette foi, je peux vous assurer qu'il y a une paix, il y a un calme, il y a une quiétude qui s'empare de nous, parce que nous savons que nous comptons sur le plus fidèle des gardes du corps, sur les plus fidèles des protecteurs des refuges, sur la plus fidèle des hautes retraites que nous pourrions expérimenter en tant qu'homme ou que femme. Alors, de regarder simplement et de ne pas bouger, c'est trois choses. Un, c'est abandonner notre propre protection, donc lâcher prise. Deux, c'est faire confiance à Dieu. Et trois, c'est décider que je n'aiderai pas le Seigneur, je ne lui nuirai pas, mais je ne l'aiderai pas parce qu'il demande que pour ce moment précis, je sois simplement dans l'attente. Très régulièrement, le Seigneur va nous demander d'intervenir en faveur des autres, mais pas nécessairement en notre faveur. Très souvent dans la parole de Dieu, on va avoir des exemples où on appelle le serviteur de Dieu à intervenir pour le bien-être du peuple, le bien-être d'un individu, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un malheureux, d'une veuve. Mais très régulièrement, il est dit, protège-toi toi-même. Pourquoi? Parce que lorsque je me protège moi-même, je suis en train d'essayer de donner un coup de pouce et un coup de main à Dieu dans la protection de ma personne. Et Jésus n'a pas essayé de se protéger. La base même de la chrétienté est le don de soi et non pas l'autoprotection de sa propre personne. Alors, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça, c'est un passage qui est souvent sur lequel on se méprend régulièrement, qui est souvent mal compris. Et tu verras la rétribution des méchants. Voici comment plusieurs aimeraient l'interpréter, et on va se rendre compte que ce n'est pas ça que ce verset est en train de dire. Certains voudraient dire, tu n'as pas à craindre, de tes yeux seulement, tu vas voir la vengeance tomber sur le méchant. La rétribution, très régulièrement, les gens pensent que c'est la vengeance de Dieu qui vient te faire justice. Et il y a des gens un peu moins spirituels qui disent, Seigneur, j'aimerais au moins participer un peu à ta vengeance. Si tu me gardais simplement 1% de droit d'action sur mon ennemi, je te laisse 99%, mais si je pouvais être participant au moins à 1% de la vengeance que tu vas exercer contre mon ennemi. Certains qui sont beaucoup plus spirituels vont dire, Seigneur, si tu me permettais simplement de mon vivant de pouvoir admirer ta vengeance. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est Dieu qui parle. Donc la vengeance et la rétribution ne t'appartiennent pas. La vengeance et la rétribution de Dieu ne sont pas de ton domaine. Si Dieu veut le partager avec toi, c'est sa décision. Mais s'il veut soustraire cela de ton regard, de ta connaissance, de ton expérimentation, il a tout le droit de le faire. C'est à lui et il n'est pas obligé de le partager. Donc Dieu n'est ni obligé de partager la vengeance en te prenant toi comme instrument de vengeance. Et Dieu n'est pas plus obligé de t'offrir en spectacle la vengeance qu'il ferait subir à ton ennemi. La véritable interprétation de ce verset est tout autre. Ou la véritable interprétation de « tu verras la rétribution des méchants » est tout autre. Voir le terme « raha »,« raha », »,« r-a apostrophe a-h », je répète « raha », »,« r-a apostrophe a-h », qui veut dire voir, regarder, percevoir, saisir, comprendre, discerner. Donc ça, c'est le terme voir. Le terme rétribution, le terme shilumach, S-H-I-L-L-U-M-A-H, je répète, shilumach, S-H-I-L-L-U-M-A-H, qui veut dire la récompense, le salaire, la paye, donc le denier qui est donné suite à un travail ou suite à une fonction, donc rétribution. Le méchant, le terme racha, R-A-S-A-H, R-A-S-H-A, je répète, racha, R-A-S-H-A, qui parle celui qui est mauvais, celui qui est criminel, coupable, ou celui qui est hostile à Dieu. Voilà ce que veut dire « tu verras la rétribution du méchant ». Tu verras le salaire de sa situation. Mais de quoi parlait-on cette semaine? On parlait bien plus de la peur, on parlait bien plus de la terreur qu'on ne parlait de la menace qui était exercée contre nous. En fait, ce que David est en train d'expliquer, c'est que si tu mets ta confiance en Dieu, si tu mets ton regard vers le Seigneur, tu pourras percevoir la différence que ça fait par rapport aux méchants. Être capable de saisir l'état du non-croyant. Cette semaine ou la semaine dernière, plutôt, je parlais avec un de mes très très proches qui venait de perdre son travail. Et il me disait, mais Florent, je regarde les gens autour de moi qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans la même situation que moi, face à la pandémie, face à l'incertitude financière, face à la maladie qui peut poindre à l'horizon, je ne sais pas comment les gens peuvent faire pour passer à travers cela. Régulièrement, Daphné et moi, lorsqu'on allait au département d'oncologie et lorsqu'on y va encore pour les suivis, régulièrement, on regarde les gens qui sont là et une des questions qui vient à notre esprit, mais comment peuvent-ils faire sans avoir Dieu? Comment peuvent-ils faire sans connaître le Seigneur? Comment peuvent-ils passer à travers toute cette pression et toute cette incertitude sans avoir Dieu de leur côté? Et c'est cette pensée-là que David veut communiquer. Comprendre que sans Dieu, ce non-croyant-là n'a aucun rempart. Sans Dieu, il n'a aucun point d'accroche. Sans Dieu, il n'a aucun point d'apaisement, point de réconfort pour Dieu, puisque le réconfort ultime et suprême est assuré par notre Dieu qui est plus fort, qui est plus grand, qui est plus élevé et qui a vaincu tout ennemi. Alors comment ces gens-là peuvent-ils passer à travers ces circonstances sans avoir Dieu avec eux? Ça reste un point d'interrogation majeur pour David et pour moi. Alors, tu verras la rétribution du méchant, tu vas saisir l'état du non-croyant et tu vas saisir sa solitude profonde face à la tempête. Nous allons dans la vallée de l'ombre de la mort et nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Nous traversons les périodes sombres de notre existence et bien qu'elles nous affectent et bien que régulièrement on va verser des larmes et bien que régulièrement on va avoir des nuits qui sont plus courtes que d'autres, mais malgré tout on traverse tout cela, malgré tout on est capable de continuer à avancer, malgré tout nous sommes capables de revenir à la surface, d'avoir un cœur qui est apaisé. Pourquoi? Parce qu'il campe avec nous, parce qu'il est avec nous. Mais imaginez ceux qui ne l'ont pas avec lui. Alors David, c'est cela qu'il est en train de dire. Si tu me crains, si tu n'as pas peur de la terreur, tu vas comprendre le désarroi profond dans lequel ceux qui ne me craignent pas, ceux qui ne m'ont pas comme Seigneur, peuvent vivre. Et c'est un état qui est terrible. Ce matin, on doit rendre grâce à Dieu pour sa protection. On doit rendre grâce à Dieu pour sa présence à nos côtés. Présence qui soit manifeste ou non, présence que l'on sait. Qu'il manifeste sa puissance de façon visible à tes yeux ou non, tu as tout de même la promesse et l'assurance que ce Dieu qui n'est pas un homme pour mentir campe réellement à tes côtés. Et juste cette connaissance dans ta tête, dans tes pensées, dans ton âme, devrait apporter la paix, le calme et la quiétude. Vous pourriez parler à des gens qui se sont éloignés du Seigneur pendant un certain temps et qui connaissent l'état de leur cœur, qui connaissent l'état de leur situation et de leur vie. Et lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils savent qu'ils ne sont pas en état pour demander quoi que ce soit au Seigneur. Ils savent qu'ils ne sont pas dans cet état d'intégrité face à Dieu où ils peuvent aisément et librement se tourner vers lui en lui disant « Pourrais-tu intervenir? Garde ta main sur moi. Est-ce que tu veux, Seigneur, me protéger? » Pourquoi? Parce qu'il y a ce malaise que suscite le péché. Mais lorsque cette personne vient à être réconciliée avec le Seigneur, elle sait qu'elle a accès effectivement à la plus haute retraite. Elle a accès au plus grand refuge. Elle a accès à la présence du Dieu Tout-Puissant qui campe aux côtés de ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que très régulièrement, le Seigneur va nous demander d'exercer simplement notre foi en restant tranquille, sur place et en le regardant agir. Ce qui va susciter chez nous un lâcher-prise, ce qui va susciter chez nous une mise en action de notre foi. Et une mise en action de notre foi n'est pas toujours le fait de prendre une épée et de commencer à couper les oreilles. Jésus va même dire à Pierre, lorsqu'il va le faire, d'arrêter, que c'est pas ça qui doit être fait. On regarde la délivrance que Dieu nous accorde. On regarde immobile, un peu comme Josaphat en haut de la montagne, qui regarde Dieu qui le délivre dans la vallée lorsque toutes les armées se sont liguées contre lui et que Dieu envoie la confusion dans le peuple. On est un peu comme Gédéon qui entoure le camp ennemi avec une poignée d'hommes comparativement à Madian et il regarde simplement Dieu faire le miracle et intervenir. Un des versets préférés de ma belle-sœur dit en anglais, Be still and know that I am God. Sois silencieux, sois immobile, reste sur place et sache que je suis Dieu. Un des aspects que je n'ai pas mentionné tout à l'heure par rapport à regarder vers le bas. Très régulièrement, pour le thème Nabat, très régulièrement, le Seigneur va nous retirer ou va nous permettre de nous éloigner un peu de l'attaque, de l'ennemi, de la terreur, pour qu'on puisse regarder avec un juste regard là-dessus. On est placé en hauteur par rapport à cet ennemi et on le regarde en disant, je sais que mon Dieu est déjà en contrôle. Je sais que mon Dieu te domine et il me place dans cet endroit élevé pour regarder sa domination contre cette menace, contre cette terreur. Alors très régulièrement, notre problématique, c'est qu'en voulant être proactif, en voulant nous-mêmes assurer notre défense, on est au cœur du combat, on est au cœur de la bataille, alors qu'on devrait être à l'extérieur, à regarder et à admirer depuis les hauteurs ce que Dieu est déjà en train de faire. Donc ce matin, je prie que tu puisses t'éloigner de cette situation de terreur pour que tu la regardes avec un juste regard, le regard que Dieu porte sur cette chose. Et tu te rappelles, notre Dieu est toujours supérieur, toujours plus élevé que tout ennemi et que toute menace. Notre Dieu est toujours plus fort. Notre Dieu domine toujours tout ennemi et toute menace. Et notre Dieu est déjà vainqueur sur tout ennemi et sur toute menace. Alors lorsque tu te positionnes avec Dieu, tu te positionnes aussi avec son regard qui voit déjà sa victoire gagnée, accomplie et partagée avec toi. Alors laissons-nous avec un temps de prière ce matin et je fais quelques annonces par la suite. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que de nos yeux, nous pouvons regarder la délivrance que tu nous accordes. Seigneur, c'est un apprentissage de te faire confiance. C'est un apprentissage de te laisser faire. C'est quelque chose qui n'est pas naturel dans notre condition d'homme et condition de pécheur où nous avons cette habitude à vouloir prendre les choses en main. Mais lorsque tu es avec nous, les meilleures mains pour prendre les choses, c'est les tiennes. Lorsque nous sommes avec toi, les doigts les plus, avec le plus de dextérité pour faire une chose, ce ne sont pas les nôtres, c'est les tiens. Seigneur, lorsque tu es avec nous, celui qui a la force pour combattre et pour vaincre, ce n'est pas nous, c'est toi. Alors Seigneur, nous voulons développer, nous voulons travailler en nous ce réflexe de ne pas partir dans cette tentative très futile d'assurer notre propre protection. Seigneur, nous savons que tu es notre refuge et notre protection. Et si nous reprenons les choses en main, c'est que nous sommes en train de t'écarter pour nous-mêmes assurer notre protection. La foi, Seigneur, n'est pas de se protéger soi-même. Tu nous dis même, Seigneur, que celui qui voudra protéger sa vie, la perdra. Alors, Seigneur, nous voulons effectivement confirmer une fois de plus que cette vie ne nous appartient plus, qu'elle a été placée entre tes mains et que c'est toi le seul, l'unique refuge pour cette vie que nous t'avons donnée. C'est toi le seul et l'unique, la seule et l'unique autre retraite, la seule et l'unique protection pour cette vie qui était jadis nôtre, mais que nous avons remis entre tes mains. Seigneur, nous te bénissons parce que nous comprenons ce matin quel privilège et quelle grâce de t'avoir dans nos vies. Seigneur, on ne pourrait pas traverser cette vie et les moments difficiles qu'on peut avoir actuellement si ce n'était à cause de toi. La solitude dans laquelle plusieurs sont confinés actuellement. L'inquiétude qui régulièrement vient frapper à la porte concernant des proches qui pourraient tomber malades, concernant nous-mêmes qui pourrions tomber malades, concernant des situations professionnelles qui sont remises en question. Seigneur, la protection par rapport à tout cela vient de toi. Nous ne comprenons pas comment ceux qui ne te connaissent pas peuvent passer à travers tout cela. Mais nous, Seigneur, nous t'avons. C'est toi qui es notre paix, c'est toi qui es notre refuge, c'est toi qui es la quiétude et le repos pour notre âme. Alors merci, Seigneur, de nous le rappeler ce matin. J'appelle, Seigneur, la paix dans les pensées de ma sœur. J'appelle le calme dans les pensées de mon frère. J'appelle, Seigneur, le repos dans toutes les cellules de leur corps, mais aussi, Seigneur, dans toutes les parties de leur âme et aux confins, Seigneur, même de leur esprit, que tu puisses, Père éternel, les saisir par ta main toute puissante et déverser sur eux, Seigneur, le repos, la quiétude, le calme et la paix dont ils ont besoin. Soutiens-les, garde-les. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, c'est tout pour ce matin. Simplement remonter un peu l'écran pour voir qui s'est joint à nous depuis qu'on a commencé notre étude. Voilà. Simplement vous rappeler, mardi prochain, on a réunion générale des membres de l'Église à 19h. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois l'Assemblée générale ou la réunion d'affaires. On doit le faire d'ici le 31 décembre. On devait le faire le dimanche 15 mars dernier, mais ça a été quand le confinement a commencé. Et puis, donc, on a eu le droit de remettre ça plus tard. Et ça va avoir lieu, donc, ce mardi, 19h, sur la plateforme Zoom. Donc, pas sur Facebook, ça ne sera pas sur Facebook, ça ne sera pas sur la page Internet de l'Église, ça sera strictement sur Zoom. Donc, on vous demande, pour avoir accès, il vous faut écrire un courriel à l'adresse du secrétariat de l'Église pour donner vos coordonnées. Vous devez vous assurer que vous apparaissez sur la dernière liste mise à jour de l'Église. Et cette mise à jour est faite parce que l'ancien logiciel comptable de l'Église faisait défaut et on a donc remis à jour la liste. Donc, ça peut faire 50 ans que vous veniez à l'Église, mais si vous n'avez pas depuis le mois de mars redonner de nouveau ou donner de nouveau votre nom, vos coordonnées, vous n'apparaissez pas dans cette liste. Donc d'ici mardi, on vous invite dans les prochaines minutes, écrivez à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et vous donnez vos coordonnées, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse courriel. Une adresse courriel qui est active à travers laquelle on peut vous envoyer les renseignements pour que vous puissiez vous joindre à nous sur Zoom mardi prochain pour l'Assemblée générale. Alors, si vous avez un crayon, je vous donne l'adresse électronique de l'Église, secrétariat EAJC, pas d'accent, en un seul mot, donc secretariateaJC, pour secrétariat EAJC, en un seul mot, @commercial.gmail.com. Je répète, secrétariat EAJC @commercial.gmail.com. Donc, vous nous envoyez ça et vous recevrez les liens pour la page, la plateforme Zoom pour assister à la réunion d'affaires de ce mardi. Alors, bonjour maintenant à Lucie. Bonjour à Camille. Bonjour à Nora. Bonjour à Ramon et Evelyne. Bonjour à Diane. Bonjour à Raymond, bonjour à Rosie, bonjour à Astrid, bonjour à Diana, bonjour à Sony, bonjour à Myriam, bonjour à Gaël, bonjour à Daniel, bonjour à Aneris, bonjour à Myrim, bonjour à Diane, bonjour à Andrés. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Donc, encore une fois, on se retrouve demain matin, 8h30, pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. C'est un temps de jeûne et de prière demain. Donc, ceux qui peuvent et ceux qui veulent, on vous invite à passer la journée dans le jeûne. On se retrouve demain deux fois, 8h30 le matin et 19h le soir pour conclure avec un temps de prière, d'intercession et de requête comme à chaque semaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'envoyer vos coordonnées à l'adresse électronique du secrétariat de l'Église pour que nous puissions vous envoyer le temps arrivé, le lien vers la page Zoom pour que vous puissiez assister à la réunion générale des membres de l'Église mardi soir prochain. Sur ce, que Dieu vous bénisse et allez dans la paix du Seigneur et on se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.